Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de Pierre Thomas, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous de Mercure, la planète au volcan exotique. Alors c'est vrai qu'après le passage de la sonde Messenger, beaucoup de géologues se sont penchés sur cette planète. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Mercure, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dernier et premier passage, c'était en 1974.
74-75, oui. Et depuis, rien du tout, c'était la planète oubliée. C'est comme Uranus et Neptune, n'ont eu droit qu'à un seul survol. Et là, c'est un apéritif qu'on a eu, parce que la sonde Messenger a fait que passer. Elle va repasser une deuxième fois en septembre. Je ne sais plus si elle passe une troisième fois. Elle va se mettre en orbite en 2011, où alors là, on aura pendant des mois et des mois un survol régulier, mesure d'altitude et tout et tout. Là, c'est vraiment une mise en bouche.
Alors, qu'est-ce qui fait que cette planète Mercure est une planète oubliée? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce que d'abord, vous pouvez nous la décrire simplement pour celui qui découvrirait une des planètes du système solaire, la première d'ailleurs, dans un livre de vulgarisation?
Alors, s'il découvrait Mercure, disons, s'il connaissait un peu la Terre, enfin le système Terre-Lune, il dirait tiens, c'est la Lune. Ça, pendant la première seconde, il dirait « Tiens, c'est la Lune ». Au bout de la deuxième seconde, il dirait « Tiens, mais sur la Lune, il y a des mers sombres et des continents clairs. Sur Mercure, il n'y a pas ces anomalies claires et sombres. Tout est uniformément gris. » Donc ça serait, il y a des choses plates comme les mers, mais elles ne sont pas noires. Donc il dirait « Tiens, c'est une Lune dont les mers sont devenues plus claires que sur la Lune. » Un peu comme sur la face cachée où il n'y a presque pas de mer. Et vraiment, je suis sûr, si vous prenez des photos de Mercure et que vous allez dans la rue à la descente du tramway, là, personne ne reconnaîtrait Mercure. Tout le monde dirait c'est la Lune.
Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente, alors?
Alors, elle est pas différente, elle est peu différente d'aspect. Elle a un certain nombre de différences majeures. D'abord, elle a un champ magnétique. Ce qui était totalement inattendu, qui a été découvert en 1975, parce qu'on pensait qu'une planète aussi petite que Mercure, aussi apparemment morte que Mercure, comme la Lune, devait, comme la Lune, ne pas avoir de champ magnétique. Elle en a. Alors ça, on sait que depuis 1975, mais on sait depuis bien longtemps avant qu'elle est beaucoup plus lourde. Prenez un litre de Lune, ça pèse 3,3 kg. Un litre de Mercure, ça pèse 5,2 kg. Ce qui veut dire que dans Mercure, il y a beaucoup plus de choses lourdes, vraisemblablement du fer, que sur la Lune. Donc c'est une Lune riche en fer avec un champ magnétique. Très étonnant.
Sa taille, 4880 km à l'équateur.
Et quelques de rayons, donc ça fait le double, oui, de diamètre.
C'est, là aussi, c'est pas très loin de la Lune.
C'est un peu plus gros que la Lune, mais pas beaucoup.
Ouais.
Donc c'est pour ça que, a priori, ça devrait être comme la Lune, une petite sœur de la Lune, aussi mort que la Lune, c'est-à-dire toute activité devrait avoir cessé depuis 3-4 milliards d'années. Le noyau de fer absent sur la Lune, présent sur Mercure, devrait être froid, donc solide, donc pas de champ magnétique. Or, il y en a un. Et c'est une des missions que va avoir Messenger, qui va donc traverser des dizaines de fois le devant et le derrière de Mercure pour analyser en détail ce champ magnétique, voir comment il est, sa valeur, s'il varie, etc. etc.
Alors, pour terminer cette première description de Mercure, c'est aussi un objet qui est très proche du Soleil et donc chaud.
Alors, chaud du côté solaire, il fait 400 et quelques degrés le jour, mais les durées jour-nuit sont très très longues, c'est une cinquantaine de jours terrestres à durée du jour. Alors, les nuits sont aussi longues, et pendant la nuit, on a tendance à se refroidir, il fait moins 200 degrés en pleine nuit. Et puis, il y a les pôles, où le soleil arrive toujours rasant au pôle, et les cratères situés au pôle, comme ceux de la Lune, sont dans la nuit et le froid perpétuel. Et il y a peut-être de la glace au pôle de Mercure.
Ah, cette discussion existe toujours.
Ah, cette discussion existe parce que l'éco-radars, les seules données qu'on a, c'est les éco-radars depuis la Terre. Il y a, au niveau des deux pôles de Mercure, une substance, qu'on ne connaît pas, mais qui réfléchit bien les ondes radars. Alors, ça peut évidemment être de la glace, ça peut être des sulfures de fer, il y a plein de substances qui réfléchissent bien les ondes radar, mais il y a des substances qui réfléchissent les ondes radar, et à l'hémisphère sud, il y a une bonne corrélation entre la géométrie des taches qui réfléchissent le radar et la géométrie de la moitié du pôle sud qu'on connaît, parce que quand la sonde Mariner est passée, ben, il y a la moitié du pôle sud qui était dans le jour et la moitié qui était dans la nuit, c'est normal, et les taches qu'on voit correspondent à des cratères qui sont dans la nuit perpétuelle, dans la partie qu'on connaît.
Alors, je voudrais connaître votre première réaction quand les images de Messenger sont arrivées. Comment le géologue que vous êtes, en découvrant ces images, vu ce qu'était Mercure nouvelle, 21e siècle?
Voilà, alors il n'y a pas de... Surtout que là, il y avait une différence avec les sondes NASA. Les sondes NASA, on avait toutes les images tout de suite. La NASA sur Mars prend une image, le lendemain, on l'a. Là, elles ont été relativement délivrées au compte-gouttes, et puis ce n'est qu'un passage. La sonde est passée une fois, elle est repartie. Donc il faut attendre 2011. Et quand on regarde les images comme ça, ben, j'ai retrouvé tout ce que je connaissais sur Mercure. J'ai fait ma thèse de troisième cycle sur Mercure, que j'ai soutenue en 1980. Donc j'ai regardé un certain nombre de choses, j'ai retrouvé les plaines lisses, les escarpements, et toutes les choses que je connaissais bien. Dans cette thèse de troisième cycle, j'avais émis une théorie, et pour la confirmer ou l'infirmer, il faudra une couverture globale, et ce qu'on a vu de Mercure, pour l'instant, ne permet pas de confirmer ou d'infirmer. Ça va peut-être un peu dans le bon sens, on en reparlera peut-être tout à l'heure. J'ai regardé évidemment le grand bassin Caloris, dont on connaissait le tiers, et qui gouverne la géologie connue de la planète. Là, on l'a vu en entier, mais éclairage assez rasant. Donc, avec une résolution... Il y a des morceaux bien couverts, d'autres morceaux, c'est pas folichon. Donc là encore, il faut attendre 2011. Donc, au début, j'étais un peu déçu, parce que j'ai dit, bon, il n'y a rien de nouveau. Et puis, la NASA a publié un certain nombre de photos, assez récemment, en particulier des volcans. Enfin, un volcan, bizarre comme volcan, et une structure dont la photo a été publiée il y a quelques mois, on dirait une grosse araignée, en plein centre de ce grand bassin Caloris, qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de spécial à cet endroit-là sur Mercure.
Alors, bassin Caloris, voilà. Ça va se centrer quand même beaucoup, en tout cas, la discussion autour de ce fameux bassin. Voilà. C'est quelque chose qui signe particulièrement Mercure, le bassin Caloris.
C'est le deuxième plus grand bassin d'impact certain dans le système solaire. Le plus grand, c'est Hélas sur Mars, qui fait 2000 km. Alors, il y a des gens qui en trouvent des encore plus grands. Il y a des gens qui disent que tout l'hémisphère nord de Mars, ça serait un cratère d'impact. Bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas prouvé. Mais celui-là, il fait 1500 km de diamètre. Il est plus grand qu'Aitken sur la Lune. Il est à peu près un peu plus petit qu'Hélas. Donc c'est un gros bazar. Et qui est tombé sur une planète qui était beaucoup plus petite que Mars. Donc la taille relative entre l'impact et la planète est énorme.
Il y a un triple anneau montagneux autour.
Alors il y a un anneau montagneux, mais enfin ça c'est classique autour d'Oriental, autour sur la Lune, autour d'Argyre sur Mars. C'est classique qu'il y ait des anneaux concentriques. Pour simplifier, c'est des sortes de rebonds. Quand vous faites le jeter un petit caillou dans l'eau, il y a un pic et puis après ça fait des ronds dans l'eau. Alors c'est une simplification à outrance, mais on va dire que c'est ça.
Mais 2000 mètres de hauteur sur Mercure, c'est pas négligeable.
Oui, mais sur la Lune, il y a les bassins autour d'Orientalis, ou la chaîne des Carpates autour d'Imbrium, la mer des pluies, c'est à peu près la même altitude.
Donc ça, c'est normal.
C'est normal. Alors ce qui n'est pas bien normal dans ce bassin, c'est que l'intérieur est affecté le tiers de l'intérieur qu'on connaissait, et ça se confirme, les deux autres tiers, c'est pareil, sont affectés par des structures tectoniques. Alors, très bizarre, en périphérie, c'est-à-dire la partie extérieure de l'intérieur, on est à l'intérieur, mais près du bord, on a l'impression qu'on a poussé et comprimé la plaine centrale, alors qu'au centre du centre, on a l'impression qu'on l'a tiré. Alors ça, on savait déjà depuis Mariner 10 que sur un tiers. Maintenant, on le sait, c'est vrai partout. Donc, il faut imaginer des scénarios géologiques qui font que d'abord, on comprime la périphérie du centre et ensuite, on tire le centre du centre. Sur la Lune, il n'y a pas ça. Sur Mars non plus. Donc ça, c'est un cas assez unique. Alors, deuxième cas, chose unique, c'est la relation avec les grandes plaines. Sur la Lune, tout le monde connaît, je ne sais pas, la mer des pluies, par exemple. Elle a 3,9 milliards d'années. On l'a très bien datée parce qu'Apollo 14 s'est posé sur ces éjectats, les a datés. Elle est remplie de terrains volcaniques qui ont 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire qu'ils se sont fait 300 millions d'années après. Donc il n'y a pas de relation, je dirais, directe de cause à effet. Si une relation, elle est indirecte. Sur Mercure, il semblerait qu'il y a beaucoup moins d'écart de temps entre ce qui remplit le bassin Caloris et la formation du bassin. Alors on n'a pas de cailloux, on ne peut pas dater, mais on peut s'en rendre compte. Par exemple, je reprends la mer des pluies. Si on regarde la mer des pluies avec un télescope, on voit ce gros sache ronde et on voit des cratères qui sont à l'intérieur de la mer des pluies. Par exemple, il y a le cratère Archimède. il y a le lac Iridium, je crois, Sinus Iridium, qui est tombé à cheval sur le bord de la mer des pluies. Il faut voir la mer des pluies, un gros rond, et il y a un petit rond qui est à cheval sur le gros. C'est pas très radiophonique, ça serait mieux à la télé. Eh bien, le cratère Iridium, Sinus Iridium, est plein de basalte, de lave. Ça veut dire qu'au moment où s'est fait le grand cratère, la mer des pluies, qui fait 1000 km de diamètre, et le remplissage de la lave, il s'est écoulé beaucoup de temps, puisqu'il y a eu le temps de se faire le cratère Archimède, le cratère Iridium et tout ça. Sur Caloris, j'en suis sûr, pour le tiers que je connais très bien, je n'ai pas regardé à fond toutes les photos des deux autres tiers, mais il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps qu'il se forme des petits cratères entre le remplissage du bassin et la formation du bassin lui-même.
Ça signifie que c'est récent?
Non, qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de temps entre les deux. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est récent. S'il y en a un qui a 3,8 milliards d'années, l'autre a peut-être que 3,75. Alors que sur la Lune, il y a 3 à 400 millions d'années d'écart, il y en a peut-être que 10, 20, 30. Mais il faut confirmer avec des photos plus précises. Donc ça, c'est une différence. On a l'impression que le volcanisme est puisqu'il est juste après, une conséquence directe de l'impact. Ce n'est pas le cas sur la Lune. Et autour de ce grand bassin Caloris, 95% des plaines de Mercure sont autour de Caloris. Dans, on en parlait, et autour. Alors sur la Lune, des mers, il y en a un peu partout sur la face visible. Là, elles sont vraiment une couronne autour. Donc une relation géographique, probablement génétique aussi. Alors ces plaines ont fait couler énormément d'encre, parce que quand on les voit comme ça, c'est évident que c'est du volcanisme. Enfin, évident, entre guillemets. Hein. C'est évident, c'est à peu près aussi évident que la formation lunaire qu'on appelle la formation collée, c'était du volcanisme aussi. Et c'est tellement évident que cette formation collée, qui est un volcanisme ancien d'après les images, c'était le but de la mission Apollo 16, qui s'y est posée pour ramasser des vieilles roches volcaniques lunaires. Patatrac, ce n'était pas des roches volcaniques, c'était des débris d'impact. Ce qui montre qu'on peut se tromper en regardant des photos. Oh, c'est pour ça qu'il faut y aller. Ces plaines mercuriennes, il y a 9 chances sur 10 que ce soit volcanisme, mais il y avait encore un doute. Et si c'était comme la formation collée sur la Lune? Et là, au milieu de Caloris, on a trouvé un volcan ou quelque chose qui ressemble beaucoup.
Ah, quelque chose qui ressemble beaucoup, ça veut dire que c'est un volcan particulier?
Ben, le volcan dans l'image d'Épinal, c'est une montagne avec un cratère au sommet. En gros, c'est ça.
Caldera aussi.
Alors, ça peut être un grand. Ça peut être. J'ai mis l'image d'Épinal, c'est le Fujiyama si on est japonais, c'est Hawaï si on est américain. Le Fujiyama, il a des pentes raides, Fujiyama, il a des pentes raides. Hawaï, il a des pentes douces, mais c'est une montagne avec un trou au sommet. Là, il n'y a pas de montagne. Il n'y a qu'un trou. Alors, ça existe des volcans avec rien que des trous, mais ce n'est pas les volcans les plus courants quand même. Et puis, ces trous, quand on voit ça sur une planète, on dit que c'est le cratère de météorite. Non, là, quand on regarde en détail la photo, c'est pour ça qu'il faut absolument attendre 2011, on aura 36 000 photos. C'est des trous, mais qui ne sont pas des cratères de météorites. Ils n'ont pas la forme, ils sont irréguliers, il n'y a pas le piton central. Donc, c'est des trous, plutôt des trous d'effondrement ou d'explosion. Donc, ça sent le volcan. Mais c'est le seul qu'on connaisse pour l'instant, mais on ne connaît pas bien Mercure, avec une autre résolution. Et il est quand même assez spécial sur Terre, les volcans, ou sur Vénus, les volcans de ce type-là, ça ne représente pas 5% des volcans. Là, c'est bizarre que le premier qu'on trouve soit comme ça.
Volcan éteint.
Ah, de toute façon, quand je dis volcan éteint, Caloris, c'est en gros, c'est 3,8 milliards d'années, et les plaines dedans, c'est 3,75, et les plaines autour, c'est 3,70. Tout ça, c'était à l'époque où la vie commençait à naître sur la Terre. C'était très, très largement avant les dinosaures et tout ça. Donc le volcan est éteint, mais c'est très étonnant de voir ça. Parce que, voilà.
Et une curieuse structure en forme d'araignée qui serait volcanique aussi?
Alors ça, c'est... Il faut voir que Mercure a une autre particularité de la système solaire. Quand on regarde Mercure, on voit des structures qui indiquent un rapprochement, comme si les terrains se rapprochaient, comme les Alpes. Et puis on en voit beaucoup, partout. Et des structures qui indiquent un écartement, on en voit très peu. Alors sur Terre, des structures qui indiquent un rapprochement, les chaînes de montagnes, il y en a à peu près autant que des structures qui indiquent un écartement, les dorsales. Pareil sur Mars, pareil sur Vénus. Sur Mercure, il y a 10 fois plus, 100 fois plus de structures qui indiquent un rapprochement que de structures qui indiquent un écartement. Comme si Mercure avait diminué. Et si vous avez une vieille pomme, ou à la limite une vieille dame, qui se dessèche toutes les deux, eh bien la peau qui garde toujours la même surface de la pomme ou de la vieille dame se ride. Parce que la surface doit accommoder un volume de plus en plus petit. Alors ça, on avait vu ça en 75, et pour interprétation, c'est très simple. Mercure a beaucoup de fer. sur les 2480 quelques kilomètres de rayon, il y en a au moins les trois quarts qui sont en fer. Et quand refroidit du fer, ça se contracte beaucoup plus que quand refroidit du caillou. Alors au-dessous du fer, qui fait tout le cœur, il y avait le caillou, pas beaucoup, entre 500 et 600 kilomètres de caillou, c'est tout, pour 1900 kilomètres de fer. C'est des proportions tout à fait différentes de la Terre, où c'est moitié-moitié. Si vous refroidissez le fer, qui se refroidit, et qui, donc qui se contracte plus que l'enveloppe de caillou, l'enveloppe de caillou se ride comme la peau de la pomme dont je parlais tout à l'heure, et ça fait ces structures compressives. Donc, tout mercure a sa surface en compression. Et Calloris est arrivé pendant cette époque-là, l'impact qui a fait un énorme trou de 1500 km de diamètre, et bien sûr, il y a interférence entre la formation de ce trou, le volcanisme que ça a provoqué, on en parlera peut-être tout à l'heure, pourquoi un impact provoque du volcanisme, et la planète qui a tendance à se recroqueviller. Toujours est-il que si la planète a tendance à se recroqueviller, c'était une thèse, une hypothèse que j'avais faite dans ma thèse, c'est que, imaginez une coque qui a envie de se refroidir, se refermer sur elle-même. Si on fait un trou, eh ben ça va refermer au niveau du trou. Alors, et ensuite, si le trou, on le remplit, on consolide, ça va se fermer de moins en moins vite, et le trou va de plus en plus comprimé, et ça va peut-être même pouvoir le bomber au centre. Et les structures très bizarres qu'on appelle maintenant la structure Panthéon, je crois, les fossés du Panthéon, qu'on appelait la structure araignée avant, c'était beaucoup plus joli, araignée, parce qu'on dirait bien une araignée, pourraient être expliquées de cette façon-là. Calloris a eu lieu, il se fait remplir de basalte, on a tendance à pousser sur tous les côtés, alors il aurait plutôt tendance à se bomber. On fait un petit trou dedans, au niveau du petit trou, paf, ça lâche, et ça fait toutes ces cassures. Alors, il y a une autre façon d'expliquer, c'est que, comme autour de ce grand bassin, il y a eu beaucoup de volcans, si on appuie tout autour du bassin, ça peut faire le même effet. Donc, il peut y avoir plusieurs causes qui expliquent cette chose étrange. Mais a priori, je n'en ferai pas un volcan, moi.
Donc, il faut attendre un peu quand même.
Ah ben, il faut attendre des photos haute résolution. Ouais. En particulier, il y a un laser sur la mission Messenger qui pourra voir l'altitude. Si cette structure est bombée, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'a bombée, les craquelures sont dues à bombement. Si on s'aperçoit que c'est tout plat, c'est évident qu'il faudra trouver une autre explication. Mais pour l'instant, on n'a pas l'altitude.
Le géologue ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'un jour, on va aller sur place avec un...
Ça ne sera pas facile.
Avec un robot.
Ça ne sera pas facile, parce qu'il y a donc 450 degrés le jour. Pour l'instant, aucune informatique humaine ne résiste à cette température-là. Donc le problème, ce ne sera pas un problème d'astronome, de géologue, c'est un problème de semi-conducteur, je dirais. Il faudra trouver, c'est le même problème sur Vénus. Sur Vénus, il y a des sondes soviétiques qui se sont posées, il y a dans les années 75-80. Elles ont marché une heure ou deux. Ce n'est pas à cause de la pression, ce n'est pas un problème, c'est à cause de la température. Et à 400 et quelques degrés, vous cuisez. Et les semi-conducteurs, les puces et toute l'informatique meurent.
À quoi ressemble la surface de Mercure, justement, soumise pendant des milliards d'années à ces températures-là? Pour quelqu'un qui se promènerait dessus, ça ressemblerait à quoi? Une croûte?
Bon, ça devrait être pas très différent de la Lune, parce que la Lune, il fait quand même 130 degrés pendant la journée, et moins 150 la nuit. Sur Mercure, c'est moins 150 la nuit, pareil, et c'est effectivement 400 degrés la journée. Donc c'est plus chauffé, donc les roches on doit plus émousser et craqueler par la différence de dilatation-rétraction. Ce qui doit peut-être changer les choses, c'est que Mercure reçoit un vent solaire assez terrible, beaucoup plus fort que la Lune, qui doit implanter plein de rayonnements dessus, en particulier au niveau des pôles où le champ magnétique n'est pas trop fort, où les particules sont déviées, et ça doit modifier la surface des cailloux. Déjà sur la Lune, il y a une espèce de peau d'un ou deux microns qui a tendance à tout noircir un petit peu. Sur Mercure, cet effet doit être beaucoup plus fort.
Est-ce que Mercure est encore une planète active, entre guillemets, en sachant que, vous le disiez en introduction, on a repéré dès 1974 qu'il y avait un champ magnétique. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, au centre, tourne pour créer cette dynamo. Quoi.
Pour faire un champ magnétique, il y a deux façons. Soit on a un aimant, alors c'est pas actif, c'est passif. Quelque chose a fabriqué un aimant dans le temps. Soit il y a un électro-aimant. Et un électro-aimant, il faut du courant électrique. Et pour du courant électrique, il faut une dynamo. Et pour qu'une dynamo, il faut quelque chose de mobile. Tout le monde sait que dans une dynamo, il y a quelque chose qui tourne. Alors, dans la Terre, par exemple, ce qui, entre guillemets, est mobile, c'est le fer liquide du noyau qui glougloute, mijote et fait tout ça. Et ça fait des courants électriques qui font le champ magnétique. Sur Mars, qui est beaucoup plus mort, il n'y a pas de champ magnétique. Ça tombe bien. Alors, il y avait deux énigmes La Lune est encore plus morte et encore moins de champ magnétique. Je ne parle pas des planètes gazeuses. C'est autre chose. Il y avait deux énigmes. C'est Vénus et Mercure. Vénus a la taille de la Terre. Il est presque aussi actif que la Terre. Les volcans ne sont pas vieux. Or, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, il devrait y en avoir, il n'y en a pas. Or, Mercure, qui est une surface toute vieille, comme la Lune, en a un. Alors, des gens disaient, alors c'est peut-être un champ magnétique fossile et tout ça. Là, les mesures qui ont été faites rapidement par le premier survol montrent que ce champ est parfaitement dipolaire et tout à fait comme devrait être un champ engendré aujourd'hui. Il faudra attendre la satellisation pour confirmation, mais a priori, le champ magnétique est fabriqué aujourd'hui par une dynamo active, ce qui veut dire qu'il y a du liquide dans le noyau. Alors que la surface ne bouge plus depuis 3 milliards d'années. Donc, sur la Lune, on comprend que ça soit mort. Mais sur Mercure, 3,5 milliards d'années, ça ne bouge plus. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui mijote au fond.
En conclusion, Pierre Thomas, le spécialiste des planètes du système solaire doit s'interroger sur la généalogie de ces naissances. Hein. Tout doit être cohérent. Mercure est le plus près du Soleil, mais est né en même temps que les autres planètes. Donc, comprendre ce qu'est Mercure aujourd'hui permet de comprendre comment il est apparu et rend cohérent l'ensemble de l'explication. Aujourd'hui, tout ce que vous posez là comme observation et questionnement sur ce qu'est Mercure et les questions qu'on se pose encore, finalement, montre qu'on n'a pas compris
Évidemment qu'on n'a pas compris. Est-ce que vous connaissez une discipline scientifique où quelqu'un dit « j'ai tout compris » ? C'est arrivé à la physique à la fin du 19e siècle. Ils avaient tout compris. Il y a deux petites expériences qu'ils ne comprenaient pas très très bien. C'était le rayonnement du corps noir et l'expérience de Michelson. Il y en a une qui aboutit à la mécanique quantique et l'autre à la relativité générale. Mais mis à part ça, personne ne dit qu'on a tout compris. On fait un scénario, c'est comme une enquête policière, qui colle avec ce qu'on connaît. Et là, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi Mercure a autant de fer ? Alors il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il y a un impact qui a arraché la superficie. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur la Terre, c'est un impact. Dans la main, là, j'ai une espèce de baguette, c'est vraiment le coup de baguette magique. On ne comprend pas, hop, un impact. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a publié sur Mars, il y a à peu près le tiers nord qui est 3-4 km plus bas que le reste, il dit hop, un impact. On fait un modèle, on voit que c'est possible. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, pourquoi Mercure a autant de fer ? On n'en sait rien. Pourquoi ce fer est encore liquide ? Alors, soit parce que Mercure est plus radioactif, soit parce que dans le fer, il y a quelque chose qui abaisse son point de fusion. Si on met beaucoup de soufre, au lieu de fondre à 1500 degrés, ça fondra qu'à, par exemple, 900 degrés. Donc, on a besoin de moins de chaleur. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas.
Et pourquoi on a mis autant de temps, finalement, à y retourner ? Pas très populaire, Mercure ?
Alors, d'abord, ce n'est pas facile d'y aller. Parce que pour aller sur Mercure, il faut vraiment freiner très fort. On a l'impression qu'une fusée, ça doit accélérer. Pour aller vers le Soleil, comme on tourne autour du Soleil avec la vitesse de la Terre, si on veut se rapprocher du Soleil, il faut freiner pour diminuer la force centrifuge. Il faut freiner très fort. D'ailleurs, les deux sondes qui sont allées sur Mercure, ne sont pas directement, sont toujours passées par Vénus pour prendre un petit coup de frein supplémentaire en croisant Vénus. Ensuite, c'est quand même pas... quand vous voulez vendre une mission au Congrès américain, et il faut lui annoncer des résultats qu'intéressent un député de l'Ohio, par exemple... Vous dire, on va chercher de l'eau sur Mars, c'est plus extraordinaire que savoir s'il y a 5 ou 10% de soufre dans le noyau de Mercure. Donc, à budget limité, Mercure, c'est pas forcément la mission la priorité. Mais alors maintenant qu'on a exploré pas mal Vénus et pas mal Mars, Mercure, c'était un blanc, il y avait un manque, et c'est pour ça que la NASA a envoyé quelque chose, et l'ESA aussi, avec du retard, comme il se doit. Mais la mission BepI Colombo va partir, je ne sais plus quand, mais bientôt, et va arriver sur Mercure, en gros, quand la mission Messenger va être finie. Alors, j'espère que la mission BepI Colombo européenne va pouvoir engranger tout ce qu'a vu la mission américaine pour faire des expériences nouvelles. Si elle refait la même chose qu'ont fait les Américains, ça sera vraiment pas très intelligent. Je pense qu'elle va faire des choses nouvelles en se servant des résultats de Messenger pour affiner des choses.
Bon, on attendra les images pour pouvoir compléter, continuer cette histoire.
Et puis, voir s'il y a oui ou non de l'eau, enfin de la glace dans les pôles de Mercure. Et tout ça, il y a encore plein de questions.
Merci Pierre Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.